Mais ceci étant, je le pense vraiment. Il a passé beaucoup de temps à préparer une étude biblique sur le tabernacle, et qui est un sujet vraiment passionnant. Et ce matin, j'aimerais vous proposer d'aller sur quelques terrains sur lesquels David n'est pas allé vendredi soir, et en commençant par vous raconter une petite expérience personnelle. Je suis déjà allé dans le tabernacle. J'avais 12 ans. C'était en 1992. Alors, je dis 92 parce que c'était à côté de Lausanne. Une expo du tabernacle en grandeur nature. Bon, c'est peut-être croisé là, alors. Et c'était l'occasion. Un bus de Lyon. Ah ouais. Ah ouais, c'était. Ça a attiré beaucoup de gens. Ça a fait beaucoup. C'était un événement qui a fait beaucoup parler. Et c'était l'occasion de voir le tabernacle en vrai, en grandeur nature. Et puis j'ai fait une petite vidéo que j'ai ramenée à ce moment-là avec mon smartphone, que j'aimerais vous montrer. Alors, est-ce que Esther, tu peux nous... Alors, ce tabernacle, vous l'avez compris, il était adapté au contexte de la vie du peuple d'Israël dans une période où il était nomade dans le désert. Le peuple était sorti d'Égypte et il se rendait en terre promise, mais ça a mis pas mal de temps. Il se déplaçait et il fallait donc facilement pouvoir démonter ce sanctuaire. C'était un sanctuaire mobile, c'était un temple portatif, provisoire, et puis c'était une structure en fait en kit qui était complètement démontable, transportable. Vous avez le mode d'emploi ici. Et d'ailleurs, ce qui est assez fou, lorsqu'on regarde par exemple l'Arche de l'Alliance, il y avait des barres qui étaient... qu'il traversait là de chaque côté, parce qu'en fait c'était pour pouvoir le porter sur les épaules facilement. Et tout est conçu de telle sorte à pouvoir être transporté et remonté facilement. L'aspect qui est assez incroyable, c'est que en fait ce tabernacle, il est décrit deux fois dans le livre de l'Exode. Et il y a aussi des allusions dans le Lévitique, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est décrit une troisième fois dans le livre des Hébreux. En fait, on a donc trois fois la description de ce qu'était le tabernacle et de ce qu'il représente. À la fois deux fois dans l'Ancien Testament et une fois dans le Nouveau Testament. Bref, on a trois modes d'emploi pour comprendre ce qu'est le tabernacle. Et ce qui est incroyable, c'est que le livre des Hébreux nous explique et nous permet de comprendre à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière du Christ, ce qu'est le tabernacle. C'est un monument qui est vraiment impressionnant à première vue, mais en fait, qui n'était pas si grand que ça. Si on compare à la taille d'un terrain de foot, vous voyez, ça fait à peu près un quart d'un terrain de foot. Donc c'était juste adapté, voilà, ce qu'il fallait pour pouvoir à la vie religieuse du peuple d'Israël. Cependant, même si sa taille n'était pas immense, en fait, c'est une clé extraordinaire pour comprendre l'Évangile. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Cette tente qui était en kit, elle a servi au peuple d'Israël pendant 400 à 500 ans, entre le moment où Moïse et le peuple d'Israël sortent du pays d'Égypte et le moment où Salomon, le troisième roi d'Israël, va construire un temple en dur à Jérusalem pour pouvoir remplacer ce tabernacle. Donc il a quand même eu une durée assez énorme. Et qui a marqué le peuple d'Israël. La dernière remarque que je voulais faire en introduction, et qui est importante, c'est que ce temple, est-ce que je l'ai là sur cette image ? Voilà. Ce sanctuaire, eh bien, était placé au milieu du camp d'Israël. Les différentes tribus installaient leurs tentes tout autour de ce sanctuaire. Et en fait, tous les matins, lorsqu'ils ouvraient leur tente et qu'ils se souhaitaient la bonjour, qu'est-ce qu'ils voyaient ? Eh bien, ils voyaient au centre du camp ce sanctuaire. Il y avait cette nuée, ce nuage-là qui sortait en fait du lieu très saint, qui symbolisait la présence de Dieu et qui était visible de partout dans le camp d'Israël. Donc tous les jours, quand ils se levaient, et jusqu'au coucher, ils pouvaient voir cette nuée et ils savaient que Dieu était présent au milieu d'eux. J'aimerais vous proposer de lire les premiers versets de l'Exode 25 qui nous racontent, qui nous expliquent justement ce qu'il se passe. Et on va lire juste un petit extrait. Exode 25, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Dès le départ, trois informations capitales. Pour construire ce sanctuaire, il faut des matériaux. Et ces matériaux, ils sont en fait offerts généreusement par le peuple d'Israël. Ce qui est extra, c'est qu'en fait, quasiment tout ce que le peuple d'Israël offre, c'est en fait ce que les Égyptiens leur ont donné pour, en les chassant d'Égypte. Donc, ils rendent en fait à Dieu ce qu'ils ont reçu gratuitement. Deuxièmement, c'est vraiment un lieu où Dieu vient habiter au milieu d'eux. Dieu exprime ici son souhait d'habiter au milieu de son peuple. Et puis troisièmement, il y a un modèle à suivre. Ce tabernacle n'a pas été créé selon l'inspiration ou l'inventivité de Moïse, mais il a suivi un modèle, certainement qu'il y avait une sorte d'IMAX sur le mont Sinaï avec une projection en 3D des différents lieux. Et puis Moïse a suivi ce modèle-là. Alors, vous me direz, pourquoi se pencher sur le tabernacle ? En fait, il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est que, contrairement à beaucoup d'objets qui nous entourent et qui ont parfois une utilité assez discutable, j'ai un pull à capuche. Pourquoi il y a une capuche derrière avec des petits trucs qui pendent devant ? C'est juste pour le décor. Dans le tabernacle, il n'y a absolument rien qui n'est superflu. Chaque élément a une signification, ou on peut trouver en tout cas une signification et un intérêt à comprendre ce que ça signifie. Alors, pas non plus aller trop loin dans les symboles, parfois on peut aller un peu loin. J'ai lu des choses qui parfois me disent, bon, pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus aller trop loin. Et j'aimerais voir avec vous quelques aspects, justement, de la fonction de ce que l'on peut voir décrit dans ce tabernacle. Trois objectifs. Le premier, c'est de nous montrer ce qu'est l'Église. Le deuxième, c'est de nous montrer qui est Christ. Et le troisième, c'est de nous montrer quel est le chemin pour accéder à Dieu. Si j'arrive à Lyon comme touriste et que je veux découvrir la ville, je peux tout à fait le faire avec des cartes. Je peux prendre, par exemple, une carte du métro. Pratique pour me déplacer. Je peux prendre une carte qui me sera donnée par l'Office du tourisme, avec les points d'intérêt à aller voir dans la ville. Puis je peux prendre aussi une carte officielle de l'IGN sur laquelle je vais voir les chemins de randonnée dans la ville et puis les autres points de vue extraordinaires. Si je mets ces trois cartes l'une sur l'autre, c'est super, j'aurai toutes les informations qui seront compilées en même temps. Mais en fait, je ne vais rien comprendre parce que tout va se mélanger. Donc il faut mieux prendre une carte après l'autre. Et c'est un peu ce que je vous propose maintenant pour le tabernacle. On peut partir vraiment en tous les sens et je vous propose de voir tout d'abord ce que le tabernacle nous apprend sur l'Église. Le tabernacle est en effet la maison de Dieu. Il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et d'ailleurs, on voit en Éphésiens 2, 22, Paul écrit, « C'est en lui, vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Les chrétiens sont aujourd'hui aussi la maison de Dieu. Et en tant qu'Église, sonnera, mais aussi en tant qu'Église avec un grand E de toutes les églises sur la terre, nous formons la nouvelle maison de Dieu. Le sanctuaire, le tabernacle, nous parle donc de cette maison de Dieu. Il nous parle de l'Église. Il se trouve qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal dans la manière dont la construction du tabernacle nous est décrite. Le point final de la construction, on le voit au chapitre 40 de l'Exode, il nous est dit « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Ça, c'est la touche finale de la construction du tabernacle. Dieu manifeste sa présence dans ce lieu par la nuée qui se dégage au-dessus de la tente. Et en même temps, le premier élément, le premier modèle qui est donné à Moïse pour construire le tabernacle, c'est l'Arche de l'Alliance. Et Dieu dit dans Exode 25-22, c'est là que je te rencontrerai. Or, pourquoi c'est un paradoxe? Parce qu'en fait, l'arche de l'Alliance, c'est la chose que personne ne pouvait voir. Elle était cachée dans le lieu très saint, il n'y avait que le prêtre qui avait accès une fois par an, et pourtant c'est la première chose que, le premier modèle que Dieu donne à Moïse, c'est l'arche de l'Alliance. C'est pour souligner à quel point Dieu voyait ce sanctuaire comme un lieu de rencontre avec lui. Alors, il y a un autre aspect qui est vraiment intéressant et qui nous montre, qui nous parle de l'Église et de ce lieu comme une image de l'Église, c'est les différentes planches qui constituent la tente, ce tabernacle. Ces différentes planches, il y en a 48, elles sont en bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'est un bois qui est imputrescible et qui est donc très, très, très pratique pour faire quelque chose qui doit durer 400 ou 500 ans. Je vous le conseille pour construire votre maison. Ce bois d'acacia, c'était des planches en fait qui étaient positionnées debout et qui formaient donc cette pièce intérieure. Le problème, imaginons que ce soit une planche d'acacia, si je la pose comme ça toute seule et que je lâche, je ne vais pas le faire, je tiens mon acacia, ça ne tient pas. Donc ces planches étaient fixées dans des bases ici, en argent, et ensuite il y avait des 5 barres qui reliaient ces planches les unes aux autres. 4 étaient visibles et une invisible. Or, ces différents éléments ont un sens. Par exemple, l'argent. Que représentait une base en argent? Eh bien, ça peut faire penser tout simplement, l'argent c'est un symbole du rachat des croyants par Christ. Ces bases d'argent, donc c'est une image du fait que le croyant, si la planche est croyant, le croyant a sa vie fondée sur cette base d'argent, sur le fait que Christ l'a racheté à un grand prix. Ces planches étaient recouvertes d'or parce que la justice divine qui nous revêt, eh bien c'est quelque chose de tellement précieux que c'est semblable à de l'or et c'est quelque chose qui ne peut pas nous être enlevé. Enfin, si on prend la traverse du milieu, qui avait la particularité de traverser les planches à l'intérieur, eh bien cette traverse du milieu, elle nous montre à quel point, même si nous sommes tous des planches différentes, eh bien, nous sommes reliés par le Saint-Esprit, qui est là et qui est présent au milieu de nous et qui garantit notre unité et notre amour les uns pour les autres. On peut aussi voir Christ dans cette barre, puisque dans Romains 12, Paul nous dit que nous sommes un seul corps en Christ. C'est lui qui fait notre unité. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est tellement extraordinaire quand on voyage ailleurs en France ou à l'étranger, que l'on va dans une église et que tout de suite, on a une relation fraternelle avec les personnes qu'on n'a parfois jamais vues et qui peuvent même parfois nous inviter à manger parce qu'on a ça en commun. Cette barre au milieu qui nous relie, c'est Christ. Le deuxième aspect à montrer sur ce tabernacle comme représentant la maison de Dieu, c'est la place dans l'histoire du plan divin. Le tabernacle, c'est l'une des 7 demeures de Dieu que l'on peut trouver dans les Écritures. Par exemple, le temple que Salomon a construit est une demeure. La nouvelle Jérusalem, qui nous est présentée dans l'Apocalypse, est une demeure de Dieu. Mais avant le tabernacle, il y a eu une autre demeure. Il y a un autre temple qui existe avant le tabernacle. Est-ce que vous savez lequel? Ce temple, c'est en fait le jardin d'Éden. La question se pose, et est vraiment posée par les théologiens, de savoir si le jardin d'Éden, ce ne serait pas en fait un temple. Alors il y a plein d'arguments qui vont dans ce sens, de dire que le tabernacle, c'est en fait un mini-Éden. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, eh bien, l'entrée du jardin d'Éden était gardée par des chérubins. Ici, l'arche de l'Alliance, là où Dieu est présent, est aussi gardée par des chérubins. C'est ces anges que l'on voit ici, là, ces espèces d'anges avec des ailes là, qui gardent l'arche de l'Alliance. le chandelier à cette branche, il représente l'arbre de vie. Les tables de la loi qui étaient présentes dans l'Arche de l'Alliance font penser à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Éden, c'était aussi l'endroit où Dieu marchait avec Adam. De la même manière où le tabernacle, eh bien, c'est le lieu où Dieu vient marcher avec les hommes. Et puis on pourrait comme ça multiplier les exemples, mais c'est extraordinaire de voir ce tabernacle comme étant en fait un élément, une pièce dans le projet de Dieu d'habiter avec les hommes. Et bien sûr, la demeure dont nous profitons aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. C'est le fait que nous, en tant que croyants, faisons partie de cette maison où nous pouvons nous encourager les uns les autres. Deuxième aspect de ce tabernacle, c'est une préfiguration de Christ. Le tabernacle préfigure les qualités visibles en Christ. David, vendredi soir, nous a proposé un parallèle hyper intéressant entre les éléments présents dans le tabernacle et les sept « je suis » que l'on peut trouver dans le livre de Jean. Vous savez, dans Jean, Jésus dit « je suis le pain, je suis la lumière, je suis la porte », etc. J'aimerais vous proposer trois autres aspects de Christ qui apparaissent dans ce tabernacle. Alors le premier, et qui est en fait le plus évident, c'est que Jésus est lui-même le tabernacle. Dans Jean 1, verset 14, on lit que « la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père ». Cette parole qui s'est faite homme, qui a habité parmi nous, c'est Christ. Et l'expression « elle a habité parmi nous », c'est en fait le mot qui veut dire « tabernaclé ». Donc la parole a tabernaclé parmi nous. Christ, en fait, est venu tabernaclé parmi nous. Dieu lui-même est venu sur terre et s'est fait homme pour habiter parmi nous. Et là, ça donne une dimension quand même assez extraordinaire de la relation et de la chance que les disciples ont pu avoir de pouvoir côtoyer Christ. Jésus d'ailleurs compare dans Jean 2 son corps au temple, et puis on le voit aussi voilà, à plusieurs endroits. Deuxième aspect qui nous parle de Christ comme le grand souverain sacrificateur. Jésus est ce grand souverain sacrificateur sur la maison de Dieu. Est-ce que vous connaissez le verset pivot du livre des Hébreux, chapitre 8, verset 1. Écoutez comment Paul certainement a dû raconter ça. « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et qui accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. » Hébreux nous donne la clé de compréhension de ce grand prêtre, c'est Christ. Et tout ce que nous pouvons lire dans les fonctions du grand prêtre dans Exode se réfère en fait aux qualités de Christ. Chapitre 10, verset 21 d'Hébreux, « Nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. » Et là, dans Exode, on voit toute la description, notamment de la tenue du grand prêtre. Et il y a un aspect assez amusant. Il avait donc une robe qui descendait assez bas, quasiment jusqu'à ses pieds. Et en bas de cette robe étaient cousues des petites clochettes. Ce qui fait que chaque fois qu'il se déplaçait, cling, 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 on savait qu'il bougeait. Et en fait, c'était hyper important parce que le sacrificateur avait le droit, une fois dans l'année, de se rendre dans le lieu très saint, vers l'Arche de l'Alliance, pour aller déposer du sang sur l'Arche de l'Alliance et faire en fait, demander en fait la purification de l'ensemble du peuple pour tous les péchés commis. Cette démarche, c'était donc une démarche très importante. Et la preuve que Dieu acceptait ce sacrifice, c'était que le sacrificateur ait le droit de puisse ressortir vivant de ce lieu très saint. Donc il se montrait publiquement, et tout le monde pouvait le voir, et puis là, après un silence mortel, où tout le monde attendait de savoir s'il allait ressortir vivant, eh bien c'était l'explosion de joie, le souverain sacrificateur était sorti vivant. Alors pourquoi les clochettes ? Ben justement, ça permettait au peuple d'écouter de l'extérieur de la tente. Si les clochettes faisaient du bruit, c'est que tout allait bien. Si les clochettes ne faisaient plus de bruit, c'est que là, il s'était passé quelque chose de grave. Autrement dit, pour que les clochettes bougent, le grand prêtre ne venait pas s'asseoir dans le lieu très saint. D'ailleurs, il n'y avait pas de chaise, ni dans le lieu saint. Il fallait qu'il soit continuellement en mouvement. Or, le passage que je viens de vous lire dans Hébreux 8.1 nous dit que Christ s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Et Christ, lui, n'a pas besoin de clochette pour s'approcher de Dieu. Christ, lui, est carrément allé s'asseoir et lui, il est là, posé à la droite du trône de Dieu. Et il a accompli quelque chose de définitif. Et son sacrifice a été accepté. Pourquoi ? Parce que même s'il est assis, eh bien, il est ressorti du voile, il est ressorti du lieu très saint, il est vivant, il est ressuscité. Et je pense que c'est là où on voit le « Je suis la résurrection et la vie » de Jean, chapitre 11. Dernière chose, le voile déchiré. Jésus est le voile déchiré. Dans Matthieu 27, verset 50, dans le récit de la crucifixion, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il meurt. Et voici que le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc c'est la preuve que c'est bien quelque chose de miraculeux. La terre trembla, les rochers se fendirent. Hébreux 10, 19 nous dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Ce voile représente le corps de Christ qui a été déchiré pour que nous puissions avoir accès auprès du Père. Et de manière incroyable, désormais, le chemin pour accéder à Dieu se dévoile à nos yeux. » Ce chemin pour accéder à Dieu, il repose cependant sur vraiment un paradoxe incroyable. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que la clé de compréhension du tabernacle dans Exode se trouve dans Hébreux. Et Hébreux 9, verset 6, nous explique en fait que le tabernacle ne nous montre pas l'accès à Dieu. Au contraire, il nous montre qu'on ne peut pas avoir accès à Dieu. Hébreux 9, verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. Ainsi, les aliments, les boissons, les diverses ablutions, les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Le tabernacle est juste une ombre des choses à venir, mais ce n'est n'était pas la solution définitive que Dieu voulait proposer pour qu'on puisse accéder à lui. Alors, quel est le chemin d'accès à Dieu ? Pour le comprendre, il faut qu'on se penche sur les trois espaces qui constituent le tabernacle. Premier espace, on a donc la cour extérieure, le parvis. Ensuite, on a le lieu saint, donc la première salle. Et troisièmement, le saint des saints, le lieu qui était vraiment caché et auquel on n'avait pas accès. Que nous dit d'abord le parvis ? Le parvis, on y rentre par une porte, on vient ensuite vers l'autel des sacrifices pour y apporter un sacrifice pour obtenir le pardon divin. C'est l'image du fait que je m'approche de Dieu sur la base du sacrifice de Christ. Jésus-Christ dit « Je suis la porte » et puis « Je suis aussi l'agneau de Dieu ». Le sang de Christ ôte mon péché et puis jamais plus Dieu ne s'en souviendra. Vous connaissez ce chant qui dit « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. » Cette entrée dans la présence de Dieu commence par le sang d'un agneau répandu. À partir de là, cette partie-là, elle était ouverte à tout le monde. Mais ensuite, à partir de la cuve d'airain, c'est réservé aux prêtres, aux sacrificateurs. Et là où c'est incroyable, c'est que dans 1 Pierre, on apprend que désormais, nous aussi, nous sommes des prêtres. Nous aussi, nous sommes des sacrificateurs. Pierre dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Autrement dit, on peut poursuivre la description des éléments suivants et se sentir concerné parce que, en tant que prêtre racheté, nous pouvons, nous aussi, avoir accès à la cuve d'airain. La cuve d'airain, elle est là. Cette cuve d'airain, à quoi elle servait? Lorsque les sacrificateurs devaient rentrer dans le lieu saint pour faire le service des pains, pour faire le service du chandelier, pour l'autel des parfums, eh bien, ils devaient pratiquer les ablutions, et en particulier, se laver les mains. C'est un petit peu comme en période de Covid, il faut se laver les mains avant de venir là. Simplement, ce n'était pas la question. La question était que pour venir dans la présence de Dieu, il fallait en effet être propre. D'autant plus que sur l'autel, il y avait des sacrifices qui étaient faits, et donc il y avait du sang c'était sanglant en fait. Donc les sacrificateurs avaient des mains tachées de sang. Ils pouvaient donc se laver là, c'était un rituel, et c'était un rituel de purification. Ça illustre notre besoin aussi, quotidien, de purifier notre cœur, de venir devant Dieu pour lui demander de laver notre cœur. C'est l'idée que nous sommes rachetés sur l'autel des parfums grâce au sacrifice de Christ, et ensuite nous avons besoin continuellement de revenir réclamer à Dieu cette purification de notre cœur, ce sang qui nous lave et qui nous garde dans la présence de Dieu. C'est une image à la fois de notre sanctification. On est sauvé le jour où on accepte Christ, et puis ensuite on a besoin de revenir à lui, de revenir à la croix jour après jour pour continuer à marcher avec lui. D'autant plus que cette cuve d'airain était constituée de miroirs qui avaient été offerts en don par les femmes israélites. Et donc, lorsque le sacrificateur arrivait pour se laver les mains, le miroir projetait à la fois son image, mais il voyait aussi le ciel au-dessus de lui et certainement la nuée qui masquait une partie du ciel. Et donc, il était confronté à ce besoin de réaliser la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu et la nécessité de garder un cœur pur devant lui. Ensuite, ceci étant fait, il pouvait rentrer dans le lieu saint. Et dans ce lieu saint, c'est là où l'on trouve trois choses. La table des pains de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Ils représentent trois aspects de notre vie chrétienne, qui sont des piliers de notre vie chrétienne. Les pains de proposition, la parole de Dieu. Le chandelier représente la lumière de l'esprit qui est dans nos cœurs et qui nous éclaire. Et l'autel des parfums, ça représente la prière de l'adoration, de notre reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Donc, dans notre vie de croyant, ces aspects-là sont importants pour pouvoir venir devant Dieu et profiter de cette nourriture, de cette lumière qu'il nous donne, de l'adorer pour ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça qu'on a l'habitude, lorsqu'on ouvre la parole, de prendre le temps de prier avant, en demandant au Seigneur d'éclairer nos cœurs par son esprit pour comprendre sa parole. Enfin, dernier élément, le lieu très saint où se trouvait l'Arche de l'Alliance. Donc c'était un lieu secret, il était masqué par un voile. Il n'y a qu'une personne qui pouvait y avoir accès, le souverain sacrificateur, qu'une seule fois par an. Tout le reste du temps, ce lieu était fermé, personne ne pouvait y entrer. En fait, ce lieu a été ouvert par le sacrifice de Christ, le voile a été déchiré, et maintenant nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de comprendre ce qui s'est passé avec l'histoire qui est relative à Beethoven. Beethoven, célèbre musicien, l'hymne de l'Union européenne, est la 9e symphonie de Beethoven. Beethoven, il a notamment composé une mélodie qui s'appelle la sonate au clair de lune. Alors, Beethoven se promène dans une ville en Allemagne, enfin, à l'époque ça ne s'appelait pas encore l'Allemagne. Il se promène et il entend quelqu'un qui est en train de jouer, d'essayer de jouer un de ses morceaux. C'est pas tout à fait ça. Il prend son courage à deux mains, il rentre dans la maison, puis là il voit deux jeunes, un garçon et une fille qui sont devant un piano, voilà. Puis il leur dit « Ah, c'est pas mal ce que vous faites, est-ce que vous me permettez de jouer un petit peu ?»« Ah oui, mais le piano n'est pas très bien accordé. » Donc il commence à jouer, etc. Puis les deux jeunes commencent à se questionner quand même. Et il se met à jouer en fait le morceau en entier qu'eux avaient de la peine à déchiffrer. Et voilà que c'est le soir, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et puis tout d'un coup, il y a un rayon de lune qui passe par la fenêtre et il aperçoit que la jeune fille est en fait aveugle. Et il est émerveillé par ce rayon de lune sur le visage de cette jeune fille. Et puis voilà qu'il se met au piano et il lui joue un morceau qu'il va appeler en fait la sonate au clair de lune. Et ces morceaux avaient pour but de décrire ce qu'était un rayon de lune sur le visage de cette jeune fille pour cette jeune fille aveugle. Et c'est un peu ce qu'est le tabernacle pour nous. Dieu, à travers cette réalisation assez spécifique, nous donne par un système d'images d'un autre langage que celui habituel, de nous aider à prendre conscience et à réaliser l'œuvre extraordinaire qu'il a fait pour nous et qu'il a réalisé pour nous en envoyant Christ sur terre et mourir sur la croix à notre place. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est pour ça que, comme verset de conclusion, je vous propose Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc de Dieu par Christ avec confiance. Et approchons-nous, ça veut dire parlons à Dieu de tout ce que nous avons sur le cœur et venons vers lui pour l'adorer, le louer et le remercier pour ce qu'il a fait pour nous et de ce que nous avons une relation personnelle avec lui. Je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, merci pour les ressources extraordinaires de ta parole et pour ce sanctuaire provisoire qui a marqué la vie du peuple d'Israël, mais qui aujourd'hui nous permet de mieux comprendre ton œuvre extraordinaire, à la fois ton désir d'habiter au milieu de nous, à la fois ton désir de nous permettre de mieux connaître Christ, mais aussi de mieux comprendre comment par Christ nous avons accès à toi et nous pouvons avoir une relation avec toi. Merci Seigneur pour ton amour merveilleux. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.